Vous avez des choses à nous dire par texto? C'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Vous êtes nos yeux, nos oreilles sur la route, mais si ça vous tente de jaser quand on a des sujets divers ou encore on parle avec des invités puis vous voulez nous donner vos opinions, ben vous pouvez le faire en tout temps par ce texto-là. Donc, je le répète, 418-971-1021, 418-971-1021. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitch, BLVD, bord en bas, FM. Premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé quelque chose de gros dans les dernières heures, Pascal.
Un sommet économique Canada-États-Unis, vous savez, avec les menaces de tarifs. Bon, ça a été suspendu pour 30 jours, mais c'est quand même important de continuer de mettre en place un programme qui est assez prospère là, à long terme pour le Canada. Donc, on a pris les devants et on souhaite continuer dans la genre de vague de responsabilité canadienne dans tout ça, là.
Exact. On va en parler avec Jérémy Guillot, qui est chroniqueur politique. Salut, Jérémy.
Bonjour à vous deux.
Tu vois, j'ai pas massacré ton nom de famille pour une des premières fois. Je m'améliore.
On l'a pratiqué beaucoup.
Vivre d'espoir!
C'est correct. Jérémy, ça fait la job aussi.
Ouais. On va parler, bien sûr, de ce sommet, Jérémy, mais juste revenir sur un sujet que j'avais pas prévu jaser avec toi. Pendant 4 ans, Jérémy, là, on va avoir de l'action au niveau de la politique américaine et internationale. Ça va être hallucinant. Le grand orange fait jaser comme pas possible.
Ben, ça fait un peu plus que 15 jours que M. Trump est arrivé. Et mine de rien, on en parle à tous les jours. C'était le cas la dernière fois quand il y a eu 4 ans de Donald Trump. On a plusieurs jours, plusieurs semaines et années devant nous à en parler à tous les jours. Et c'est une stratégie de la part des républicains. C'est une stratégie d'inonder les ondes, d'inonder les journalistes, d'inonder les gens de nouvelles, de choses pour garder le contrôle de l'agenda politique. Et on sent aussi que ça fonctionne. Un, on en parle à tous les jours. Et deux, les démocrates sont absents parce qu'ils ne savent pas où donner de la tête. Donc, c'est d'un point de vue stratégie politique intéressant à regarder, d'un point de vue d'alliés et de partenaires commerciaux très inquiétants parce qu'on ne sait jamais c'est quoi la prochaine chose que Donald Trump va nous sortir. Ouais.
On passe d'un président qui donnait des poignées de main dans le vide, saluait des gens qui étaient décédés dans la salle, s'endormait sur sa chaise lors de moments hyper importants, à un président qui, chaque fois qu'il ouvre la bouche, ben, y a des gens qui sont vraiment insultés, puis d'autres qui disent ben, c'est ce qu'on voulait comme président. C'est assez particulier le monde dans lequel on vit présentement, là, mais chose sûre, c'est que pour les médias, Donald Trump, c'est du bonbon, contrairement à ce que Biden aurait pu nous apporter pour 4 ans.
Oui, mais en même temps, souvenez-vous, quand Joe Biden est arrivé, c'était aussi ce qu'on cherchait. Hein. On disait de Joe Biden qu'il était un président de transition, plus calme, capable d'unir le pays. Finalement, ça n'aura pas été ça, son legs. Mais c'est à l'époque, à la fin des 4 premières années de Donald Trump, c'était quand même ce qu'on soulignait avec l'arrivée de Joe Biden. Donc, pas mal certain que dans 4 ans, on va en avoir une autre casque aussi, d'en entendre parler à tous les jours.
Mais j'imagine que le prochain, ça va être un peu plus plate. Hey, Justin Trudeau, est-tu en train...
On te souhaite parce qu'on peut pas tenir ça tout le temps.
Ouais. Justin Trudeau, est-tu en train de sauver sa job, Jérémy, actuellement? Bon, il a mis le Parlement, il l'a fermé carrément. Il est seul aux commandes comme premier ministre du Canada, alors qu'on le sait que c'est un peu illégitime ce qui est en train de se passer. Là.
Peut-il la sauver, Yann? Ou encore sauver la fin de tout ça?
Je pense que les gens vont se souvenir de ces derniers mois, ces dernières semaines, mais Mark Carney monte dans les sondages, mais je pense qu'il y a une petite part de Justin par rapport aux sondages.
Mais il ne retournera pas en politique, Justin,
non,
c'est fini,
non,
fini,
non, non.
Fini.
Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy?
Ben, je pense pas qu'il va revenir sur sa décision, je suis d'accord avec Pascal sur celle-là, mais il est en train de réécrire les dernières pages de son livre plus positivement. Il se redore le blason un petit peu, et le fait qu'il se représente pas, il enlève un peu de pression aussi pour lui donner les coups des franges, de faire ce qu'il veut d'ici la fin. Il n'est pas obligé de s'arrimer ni avec Mark Carney, ni avec Chrystia Freeland. Il n'y a pas la pression politique de se représenter, de devoir compter des points. Et on sent aussi qu'il est en contrôle de la situation. On sent que la stratégie à Ottawa a fonctionné, même si on veut pas le dire trop fort parce qu'on veut pas insulter Donald Trump du côté de nos représentants fédéraux. C'est Donald Trump qui a reculé lundi. La bourse, la Chambre de commerce des États-Unis, les représentants républicains, le Wall Street Journal qui titrait la guerre commerciale la plus stupide au monde. Donc, on sent qu'il est en contrôle de la situation autant qu'on peut l'être dans les circonstances, et ça fait du bien aux libéraux. Donald Trump a un peu l'effet d'une bouée de sauvetage politique pour le Parti libéral du Canada, qui doucement remonte dans les intentions de vote. On n'est pas en train de dire qu'ils vont gagner la prochaine élection, là, mais ils commencent à être compétitifs pour la place d'opposition officielle et pourraient peut-être revenir dans la partie. Et de l'autre côté, Pierre Poilievre a de la misère à réajuster le tir, parce que là, il peut plus attaquer Justin Trudeau. On parle plus de la tarification sur le carbone.
Il peut plus parler des crimes.
C'est ça. Puis de dire que le Canada est brisé dans un moment où il y a une vague de patriotisme, c'est quand même un discours qui est un peu étrange dans les circonstances. Donc, beaucoup d'efforts de son côté pour redéfinir son narratif.
Puis est-ce que ça t'a surpris de voir que les intentions de vote au fédéral vont du côté de Carney? Là. Il a augmenté les intentions de vote, alors que, on va se le dire, là, c'est, il n'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant, Mark Carney.
Il n'y a rien de surprenant ici. Hein. D'une part, on pourrait qualifier de lune de miel. Là, on avait vu la même situation quand Kim Campbell avait repris les règnes du Parti conservateur ou John Turner à l'époque. Donc, on voit une certaine lune de miel qui ramène le parti aux commandes dans les intentions de vote. Et après ça, le vrai défi, c'est de traduire ça à la fin au vote final pour le gouvernement. Peut-être que pendant la campagne électorale, les gens vont se rappeler, bon, mais c'est la même équipe qui entourait Justin Trudeau qui est autour de lui, c'est les mêmes personnes, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut s'embarquer? Mais ça donne une chance de survie aux libéraux pour la prochaine campagne électorale. Et c'est ça qui est intéressant. Et si Justin Trudeau avait démissionné avant, il aurait placé son parti en meilleure position. Mais un, le pays aurait été dans une position plus stable aujourd'hui, et le Parti libéral du Canada aurait eu un chef qui aurait eu plus de temps pour se faire connaître et d'apprendre à faire de la politique. Parce que Mark Carney, c'est pas un politicien de carrière. Ça peut être un avantage quand on essaie de remporter une course à la chefferie, mais ça peut être aussi un désavantage quand on arrive en campagne électorale et qu'on n'est pas habitué à ce rythme-là, qu'on n'est pas habitué à cette répartie et à ce rythme politique d'une campagne électorale. Il n'y a pas droit à l'erreur, là. Ça va être trop court, sa période de chefferie.
Est-ce que ça nuit actuellement à la politique canadienne, le fait que le Parlement ne soit pas ouvert?
J'entends beaucoup les conservateurs dire que ça prendrait des élections pour que ce soit plus stable. Moi, je ne vois pas comment des élections présentement permettraient au Canada d'être mieux positionné pour faire face à Donald Trump. C'est vrai que si Justin Trudeau n'était pas dans la situation actuelle, ce serait peut-être plus stable. On aurait un premier ministre qui a les pleins pouvoirs aux commandes. Mais la situation, elle est telle que telle, là. Et de plonger le pays dans une élection générale aujourd'hui, pour moi, je trouve pas que c'est la solution à prendre. Parce que dans une élection, le Parlement est encore moins contrôlable qu'il l'est présentement. Et je rappellerai aussi que pendant toute la dernière session, le Parlement était paralysé sur des questions de privilèges parlementaires et de partisanerie, là. Donc, les ministres font le travail qu'ils ont à faire. On les voit souvent à Washington, ce qu'ils pourraient pas faire normalement si le Parlement était ouvert. Donc, dans les circonstances actuelles, faut donner ce qui revient aux libéraux. Ça va quand même plutôt bien dans la façon dont ils gèrent le pays. Et ce qui aide aussi, c'est que des candidats de taille comme Mélanie Joly, comme Dominique Leblanc et comme François-Philippe Champagne ont choisi de rester dans leur position de ministre plutôt que de se lancer dans la chefferie.
Qu'est-ce que Pierre Poilievre pourrait faire là, parce qu'il y avait le vent dans le dos là, dans les dernières semaines, les derniers mois. Tout le monde voulait entendre ce qu'il avait à dire. On le voyait partout. Puis là, avec justement cette fameuse crise où le Grand Orange de l'autre côté voulait nous charger un 25% de plus, il s'est tassé un petit peu. Est-ce qu'il voulait être présent? Ça, c'est une autre histoire. Mais on a l'impression qu'il y a comme son message, c'est comme dilué, alors que c'est lui qui est pressenti pour être le prochain premier ministre du Canada. Qu'est-ce qu'il peut faire pour se sortir de ça?
C'est difficile, des situations comme ça. On se souvient un peu pendant la COVID où François Legault était omniprésent, les oppositions n'étaient pas vraiment là, même si les oppositions essayaient des fois de proposer des solutions, on les entendait pas toujours. Une crise comme celle-là avantage toujours ou presque toujours le gouvernement en place. Et là, M. Poilievre, s'il veut revenir dans l'équation, c'est une chose de dire que c'est à cause de Justin Trudeau qu'on est là. Mmh. C'est pas tout à fait vrai que c'est à cause de Justin Trudeau que Donald Trump décide d'imposer des tarifs de 25 %. Et donc, s'il veut s'inscrire dans la tête des gens, il doit le faire un peu plus positivement, je pense, qu'il nous a habitués dans les dernières années depuis qu'il est chef. Il va devoir être constructif, il va devoir proposer des solutions auxquelles on n'a peut-être pas pensé, démontrer qu'il a une équipe autour de lui pour affronter ça. Ils nous disent, les conservateurs, qu'ils ont des gens à Washington, mais de les mettre à profit, ces connexions-là. Et là, on va devoir commencer à voir l'équipe autour de Pierre Poilievre et plus juste Pierre Poilievre.
T'as raison, parce que quand on demande aux gens, ils ont de la misère à définir un peu qui est-ce qui est autour de Pierre Poilievre. Là, vois-tu, il a fait un point de presse ce matin où devant son micro, il est écrit « Stop the drugs ». C'est un peu le même discours que ce qui est en train d'être mis en place par les libéraux, un peu par la force de Donald Trump. Mais quand même, si lui avait été au pouvoir, comme tu dis, j'ai la forte impression que Donald Trump aurait trouvé un autre point sur lequel taper pour imposer ses tarifs ou encore manier selon sa vision des choses. Il y a un truc, par contre, que je me demande, si jamais le gouvernement conservateur prend les rênes au niveau du fédéral, donc pour le Canada, aux prochaines élections, Pierre Poilievre, jusqu'à maintenant, nous a pas démontré une force politique de leadership face à un genre de Donald Trump un peu intempestif. Et Donald Trump semble pas plus respecter Pierre Poilievre que Justin Trudeau. J'ai l'impression que peu importe le switch qu'on va faire, pour Donald Trump, il y aura une façon de démolir le Canada d'une manière ou d'une autre en termes de visage politique.
Ah, peu importe qui est aux commandes du Canada, je ne pense pas que ça change grand-chose dans les intentions de Donald Trump. Il veut nos ressources naturelles, il veut notre bois, notre pétrole, notre uranium, notre énergie. C'est ça les objectifs de Donald Trump. Peu importe qui est aux commandes, ça ne va rien changer à ça. Et un autre danger qui guette Pierre Poilievre, c'est de se coller trop près de la rhétorique républicaine, d'inviter un Elon Musk, par exemple, à venir au Canada, de se coller sur des messages que Donald Trump prend. Je suis pas certain qu'à long terme, c'est une stratégie qui est payante. Je pense que Pierre Poilievre est sur son X quand il avait, je sais pas si vous vous souvenez, au début du mois de janvier, il a fait une conférence de presse où il avait les drapeaux du Canada tout autour de lui. Quand il prend cette position-là, qu'il est constructif, qu'il est premier ministrable et si jamais il est capable de s'entourer d'une équipe pour nous dire « ça, c'est la personne qui va négocier avec Donald Trump, ça, c'est la personne qui va s'occuper des frontières, ça, c'est la personne qui va s'occuper de notre économie », pendant qu'on négocie avec les Américains, parce que la prochaine chose qui s'en vient, là, Donald Trump va nous renégocier ça à chaque 30 jours jusqu'à temps qu'il obtienne ce qu'il veut pour les tarifs. Mais en 2026, il y a la renégociation du traité de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada qui s'en vient. Donc, qui va être en charge de cette négociation-là dans l'équipe de Pierre Poilievre? Et c'est en positionnant son équipe, ses solutions, qui va arriver à s'inscrire dans la conversation, plutôt qu'en disant que c'est toute la faute de Justin Trudeau. Je pense plus que les gens sont là. Donald Trump a réussi quelque chose que les libéraux avaient pas réussi à faire, c'est de changer la question de l'urne. La question de l'urne, c'est plus la taxe sur le carbone, c'est plus Justin Trudeau. C'est rendu qui est le mieux placé pour répondre à Donald Trump. Et c'est ça que Pierre Poilievre va devoir faire pour remporter la prochaine élection.
Parlons de nos ministres provinciaux. On va parler de François Legault, bien entendu, mais je veux te parler de l'attitude de Daniel Smith, qui a été capitaine Alberta, qui est allé rencontrer Donald Trump pendant 2 jours, qui a même été à l'investiture de Donald Trump pour sauver la relation entre l'Alberta et les États-Unis concernant le pétrole. Puis de l'autre côté, on avait François Legault qui disait « Ben, moi, j'ai pas acheté de jus d'orange, puis eux autres, s'ils nous font suer, ben on va leur couper l'hydroélectricité, puis on n'achètera plus de jus d'orange. C'est weird. Ouais. On leur donnera plus de sirop d'érable. Tu sais, je veux dire, c'est weird comme façon de procéder. Tu regardes Daniel Smith, qui est probablement une femme qui pourrait être première ministre du Canada dans les prochaines années. Elle est encore très jeune, extrêmement brillante. Elle a un front de bœuf, elle a peur de personne. C'est weird de voir elle puis versus la réaction de François Legault avec son sirop d'érable, son électricité, puis le boycott du jus d'orange. Ça a comme juste pas de bon sens.
Oui, puis j'ajouterais Doug Ford aussi dans ce mix-là, parce qu'on a vu plusieurs réactions différentes.
Et puis les intentions de vote là, de Doug Ford, là, c'était impressionnant là, ce matin encore.
C'est pas pour rien qu'il a déclenché une élection de son côté en Ontario. Mais Doug Ford a vraiment mis la cape de Capitaine Canada, alors qu'on a senti François Legault un peu toujours à la remorque des réactions de Doug Ford et Daniel Smith qui faisait bande à part. On parlait tout à l'heure que Donald Trump, ça y dérange pas qu'il est aux commandes du Canada, même si Mme Smith a tout fait pour épargner l'Alberta. s'est collé à Donald Trump, est allé lui rendre visite, est allé à son investisseur. Ça n'a pas empêché Donald Trump de mettre des tarifs sur le pétrole albertain. Ça l'a pas empêché de procéder quand même. Donc, on le voit que la seule façon pour que le Canada se sorte de ça, c'est de présenter un front uni, peu importe les différences entre les différentes provinces. Peu importe si on parle de l'hydroélectricité ou du pétrole, il va falloir trouver une façon de s'entendre tout le monde ensemble, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et ça va être ça l'objectif de Donald Trump, d'essayer de nous diviser à l'interne pour remporter des gains de son côté à lui. C'est un négociateur qui est féroce. Il va essayer de nous diviser. Puis si on a des premiers ministres ou des premières ministres comme Daniel Smith qui décident de briser les rangs, bien, c'est là que c'est dangereux pour le Canada.
Mais de l'autre côté, elle travaille pas pour le Canada, elle travaille pour l'Alberta. Puis je m'attendrais à ce que François Legault fasse la même affaire pour le Québec. Je comprends ce que tu dis, c'est qu'ensemble, on est plus fort, mais elle a essayé de sauver le pétrole albertain, qui est pas mal responsable de la péréquation qu'on reçoit là, à chaque année.
Oui, puis ça n'a pas fonctionné. Est-ce que l'Alberta tout seul est capable de se sortir du lot face aux États-Unis? Moi, je pense que c'est en travaillant tout le monde ensemble qu'on va être capable d'y arriver. De l'autre côté, François Legault non plus m'a pas impressionné dans sa façon de répondre à la crise. Il a commencé sa session parlementaire sur la question de l'identité. On le sent un peu à la remorque des Doug Ford de ce monde dans la façon de répondre à Donald Trump. Et à la remorque aussi de Québec solidaire, qui a proposé d'avoir un débat d'urgence dans lequel François Legault a livré un bon discours, selon moi. Mais quand même, j'aimerais ça le voir un petit peu plus impliqué puis un petit peu plus à l'avant de la parade. Un champ où il pourrait se démarquer, par exemple, ce serait sur le commerce interprovincial. On en parle beaucoup, mais on n'a pas trouvé le champion de cette question-là. Si François Legault veut capitaliser sur cette crise-là avec les États-Unis, comme il le fait à l'époque de la COVID, ça va lui prendre un dossier. Et ça, je pense que ça pourrait être une bonne piste de solution pour lui.
Jérémy Guillaume, ça a été un plaisir!
Ben, pareillement.
Salut!
L'excellent Jérémy Guillaume, qui est chroniqueur politique, à qui j'aime bien jaser. Tu vois qu'on s'entend pas tout le temps sur les mêmes affaires, mais on est capable de jaser pareil.
Ben, c'est ce que devrait faire le commun des mortels.
Ben oui. Puis il y a un auditeur tantôt qui nous écrit, il dit là... vous l'échappez. J'avais pris un break, mais là, je vais repartir.
Ah oui?
Parce que visiblement, c'est un pro-Trump à côté.
OK.
C'est correct, là. Moi, je ne juge pas ça. Mais c'est. Tu sais, moi, je suis un peu plus au centre. Moi, les bons coups de Trump, je vais les mentionner. Puis les mauvais coups de Trump, je vais les mentionner aussi. Tu sais, ce qu'il a dit hier, c'était des âneries, là. C'est épouvantable de dire je vais éradiquer un peuple, je vais les déporter, puis je vais faire une deuxième Côte d'Azur, là. Ouais. Alors que c'est pas sa job de faire ça, là. Ça n'a juste pas de sens.
Puis c'est pas à notre job non plus, de parler comment faire des bons débats, des bonnes conversations dans l'ouverture pour faire évoluer la société. La seule chose que je répondrai à tout ça, c'est de renvoyer à la conversation qu'on a eue avec Joël Mosé dans l'open mic ce matin.
Mais si vous cherchez quelqu'un qui va vous dire pour qui voter puis quoi penser, tu sais, c'est pas moi. Je pense pas que Pascal ait cette prétention.
Ma job, c'est de discuter avec toi en nombre.
Puis c'est ça. Puis genre. Est
dur, mais vrai.
Ah oui. Mais c'est toi qui as le plus gros salaire.
Ah oui?
Midi 59! Vous avez des choses à nous dire? C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. On revient, les amis. Puis après la pause, c'est l'excellent Louis Gauthier, chroniqueur international, qui va être avec nous autres. Je sais pas, il est où? Il est-tu en Californie? Il est-tu au Texas? Il se promène tout le temps. On revient. Boulevard 102-1.